Directeur de la radio insolite, on retrouve Émilie. C'est ce que j'aime bien, c'est qu'avant de démarrer, elle m'a dit que j'étais extraordinaire. Je voulais te remercier, Émilie, de me dire que je suis extraordinaire.
Bonjour, Daria.
C'est pas ça, c'est pas ce que tu m'as dit. Ah non, tu voulais dire que le sujet était extraordinaire, pardon, l'expo était l'expo de là-haut-dessus. Bon, dis-moi, on te retrouve avec grand plaisir, mais alors, comme évidemment, il y en a qui ont le numéro 2, mais qui n'ont pas encore eu le numéro 1, comme c'est le numéro 2, il va quand même que tu fasses la même chose que le début du numéro 1. Et c'était quoi le début du numéro 1 ?
Une petite présentation, probablement.
Bah, bien vu. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est sérieuse.
Je suis, hein.
Vas-y, à toi.
Eh bien, donc, mon nom, c'est Émilie Pissardon. Je suis guide conférencière et je travaille à la fois en France, dans les pays de Savoie, et en Suisse, principalement à Genève et autour du bassin lémanique, en tant qu'indépendante et pour différentes institutions.
D'accord. Donc, aujourd'hui, comme c'est une journée un peu spéciale sur Direct en Jeu, tu as souhaité intervenir sur la calinothérapie, c'est bien ça?
Ah oui, ça c'est un sujet qui plaira à mon fils.
Ah non, pardon, non, c'est vrai, excuse-moi, c'est pas toi,
c'est pas moi.
C'était Emma qui devait en parler, je me suis trompé. Non, c'est Émilie, je me suis trompé. J'ai fini, on n'écoute pas, on fait comme si j'avais rien dit.
Je suis rien en fait. Hein.
Ouais, c'est ça, non, je suis rien. Bon, dis-moi, il paraît que tu es très détendue là, cette heure-ci.
Oh, détendue, je sais pas, mais oui, ça va.
Bah non, il y a quand même des choses que tu m'as dit, il y a un truc important à 19h.
Effectivement.
Fallait pas me parler.
Effectivement, c'est une période un petit peu chargée en ce moment, parce qu'on essaye de faire redémarrer les choses. Et effectivement, mon association Genève et Capade a décidé de présenter son programme de printemps aux journalistes ce soir. Et donc, on a une première visite pour les journalistes à 19h.
D'accord. Et la visite, vous la faites en Haute-Savoie? Tu l'as fait à Genève ou tu l'as fait de l'autre côté de...
Alors non, ça c'est une visite à Genève.
D'accord.
Qui a pour thème les passages couverts, parce qu'il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a aussi à Genève. Et c'est ma collègue Aude Thierrin qui l'a fait.
D'accord. Et ah oui, parce que toi, c'est vrai, tu vas être aux USA.
Alors j'y étais ce matin. Enfin non, en fait, non, c'était pas un Américain que j'avais ce matin pour le coup. il était à Singapour.
Oui, vous saurez la prochaine fois que vous voulez faire une interview avec moi qu'il faut faire très attention, soit en fin d'interview, soit avant. Parce que moi, je note tout, et évidemment, j'ai noté sur mon agenda les visites virtuelles aux USA. Alors, c'est quoi ces visites virtuelles?
Eh bien, ce sont des visites que je diffuse en direct, en fait. Donc, moi, je suis à Genève ou à Annecy, enfin, voilà, sur place. Je filme et de l'autre côté de l'écran, j'ai des clients qui peuvent être, souvent c'est aux États-Unis. Là, ce matin, je me suis été à Singapour et qui suivent la visite comme s'ils étaient sur place finalement. Donc, je leur montre tous les petits détails. Comme ça, je leur fais une visite privée de cette manière.
So, it's a private visit in English.
Exactly.
Ah. Combien de langues?
Most of the time. anglais, allemand, espagnol.
Oh, carrément.
Oui.
Ah d'accord, ok. Mais bon, en Suisse, je croyais qu'on parlait, pas un coup, en Suisse au fait. On parle Suisse?
Alors, on parle 4 langues en Suisse. C'est ce que je disais la dernière fois. En fait, on a en général, pour simplifier, la Suisse parle la langue de ses voisins. Donc, la langue majoritaire, c'est l'allemand, plus exactement le suisse-allemand, qui est parlé dans plein de grandes villes comme Zurich, la plus grande ville de Suisse, Berne, la capitale, Bâle, Lucerne, etc. Tout ça, on parle suisse-allemand, même si il y a des variations de langue d'une ville à l'autre, mais c'est parlé par à peu près un tiers de la population. Mmh. Ensuite, on a le français, en Suisse romande. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est occidentale, hein, donc frontalière avec la France. Ah, c'est le cas donc de Genève, Lausanne, on a le canton de Neuchâtel, par exemple, Jura, etc. Ensuite, on a un canton qui parle italien, c'est le Tessin, donc Lugano, Locarno. C'est le seul canton qui est au sud des Alpes, d'ailleurs, et donc à la frontière avec l'Italie. Et puis la quatrième langue, elle est devenue langue officielle en 1938, et c'est le romanche. Ou le rhéto-romanche, si on le dit pas complètement. Donc ça, c'est une langue qui est beaucoup moins parlée. On pourrait presque le rapprocher d'un dialecte, hein, parce qu'il y a un peu moins d'1% de la population suisse qui le parle. Et c'est essentiellement dans le canton des Grisons. Donc parmi les lieux bien connus à l'étranger, il y a Saint-Moritz, la station de ski par exemple, ou Davos qui accueille le Forum économique mondial, en temps normal. Et voilà, donc c'est dans cette région-là qu'on parle le romanche. Et donc, ce sont 4 langues officielles.
D'accord. Et tous les Suisses parlent ces quatre langues ou celui qui parle allemand ne parle pas français et vice-versa, enfin, vice-versa.
Alors, ça dépend. Bon, de manière générale, les Suisses sont plutôt bons en langue hein, quand même, parce que c'est quelque chose qui est assez naturel chez eux. Puis c'est vrai que c'est tout bête, mais bon, tous les documents officiels sont dans les quatre langues, les billets de banque, par exemple. Et puis même quand vous faites vos courses, on va dire qu'il y a au moins du français et de l'allemand en général, et de l'italien. Le roman, je fais un peu moins quand même, mais voilà, on est familier quand même de voir toutes ces langues. Et à l'école, comment ça se passe? On apprend au minimum une langue nationale, et puis l'anglais, bien sûr.
Parce qu'il y a aussi l'anglais, ça ne suffit pas d'avoir 4, tu rajoutes l'anglais aussi. Bien.
Surtout à Genève, d'ailleurs, franchement, moi j'ai rencontré énormément d'expatriés qui sont là depuis plus de 10 ans et qui ne parlent toujours pas un mot de français parce qu'on n'en a pas spécialement besoin, on peut très bien fonctionner complètement en anglais à Genève. C'est absolument pas un souci. Et d'ailleurs, il y a eu quelques années, il y a eu une votation pour proposer à la population d'instaurer l'anglais comme 5e langue officielle, en réalité. Parce qu'en fait, à l'école, on apprend donc au moins une langue nationale, donc majoritairement en Suisse alémanique, ils vont apprendre le français, et en Suisse romande, l'allemand, ce qui pose parfois problème d'ailleurs, parce qu'on apprend le Hochdeutsch, c'est-à-dire le bon allemand d'Allemagne, et pas le suisse allemand, qui est quand même une vraie variation. Moi, j'ai des amis allemands qui ne parlent pas un mot suisse allemand, voilà. Donc, ça peut parfois provoquer quelques tensions. Et c'est vrai que énormément d'entreprises qui peuvent avoir des bureaux à la fois en Suisse alémanique et en Suisse romande, et qui leurs employés, quand ils doivent communiquer entre eux, la plupart du temps, les romands ne parlent pas assez bien allemand, les alémaniques ne parlent pas assez bien français, et au final, la langue commune, ça devient l'anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette proposition de fait d'avoir l'anglais comme 5e langue officielle, et puis finalement, ça a été refusé, donc on en est toujours à 4, même si l'anglais est très parlé, et les Suisses en général sont plutôt bons en langue.
Est-ce que c'est lié à l'histoire de la Suisse, à l'histoire de Genève ou à la présence des grandes institutions internationales?
Au niveau de l'anglais?
Au niveau de l'anglais, au niveau des autres langues, c'est lié ici.
Alors, les autres langues, c'est la construction de la Suisse. En fait, la Suisse, il faut vraiment voir ça comme une mosaïque qui va se constituer comme ça, petit à petit, et qui a été achevée dans son état actuel, et ça bouge encore finalement assez régulièrement. Donc si je fais un très très grand condensé de l'histoire de la Suisse, la Confédération, elle est née officiellement le 1er août 1291.
J'étais pas née.
Non, moi non plus. Et on avait 4 cantons primitifs qui sont les cantons autour du lac de Lucerne, qui vont signer un pacte de défense mutuelle contre l'envahisseur, entre guillemets, habsbourgeois. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, la région était sous la domination du Saint-Empire romain germanique, et il y a eu un changement d'empereur qui est devenu un Habsbourg, et les Habsbourg ont décidé d'imposer quelques modifications dans le fonctionnement jusque-là. L'empereur, pour se faire représenter sur place, avait des baillis, donc qui étaient chargés d'appliquer la justice, et puis voilà, qui étaient vraiment les représentants de l'empereur à un niveau local. Mais souvent, ces baillis étaient des locaux, finalement, nommés par l'empereur. Et les Habsbourgeois ont modifié un petit peu ça. Ils ont décidé que c'était des gens qu'ils allaient envoyer eux, qu'ils allaient choisir eux. Et ça a assez mal passé, finalement, auprès de cette population autour du lac de Lucerne. Et en réaction à ça, ils ont décidé de s'allier et puis de se défendre entre eux, finalement. Ça, c'est le départ de la Suisse. Et petit à petit, on va rajouter comme ça, canton par canton, pour former cette mosaïque-là. Le dernier canton qui a été rajouté, c'est assez récent, c'est le Jura, et c'était en 1979. Alors, on ne l'a pas rajouté véritablement, en fait, il a fait sécession de Berne, mais voilà, c'est le dernier canton créé, et je disais, ça bouge encore, parce que le mois dernier, par exemple, la ville de Moutier a décidé de changer, et justement d'abandonner Berne pour passer dans le Jura. Donc, vous voyez, il y a des...
D'accord.
C'est une constitution permanente. Et du coup, finalement, chaque canton, quand il s'est rajouté, il avait déjà sa propre langue. Et quand je dis que c'est la langue des voisins, c'est vraiment ça. Hein. Ceux qui étaient proches des frontières de l'Allemagne, de l'Autriche, parlaient allemand. Ceux qui étaient plus proches de la France parlaient français. Alors, on parlait franco-provençal au départ. Hein. C'était la même langue que dans le sud-est de la France. Mm-hmm. Mais voilà, chacun garde sa langue, finalement. Et à partir du moment où on va avoir la réforme protestante qui va apparaître au XVIe siècle, ben c'est pareil, ça va varier suivant les cantons. Certains vont devenir protestants, c'est le cas de Zurich, de Berne et bien sûr de Genève, et d'autres vont rester catholiques, comme Fribourg, par exemple, le Valais, le Tessin, etc. Donc c'est vraiment chacun a ses particularités, et c'est vraiment ce qui fait aussi la richesse de la Suisse, je trouve, c'est que finalement c'est une construction, c'est vraiment l'opposé de la France qui s'est construite de manière très verticale, mm-hmm. avec toujours finalement un roi, et puis voilà, ça descend comme ça, ça recèle à après. La Suisse, dès le départ, ça a été l'inverse. On est parti vraiment sur un plan horizontal avec l'idée de se dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait, que ce soit une ville, un canton ou une personnalité qui soit plus importante que les autres, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la ville de Berne qui a été choisie comme capitale, parce que, en fait, Berne, c'est une toute petite ville, hein, c'est de loin pas la plus importante de Suisse, mm-hmm. mais bah justement, elle n'était peut-être pas assez importante pour avoir trop de velléité à dominer les autres, et puis elle avait surtout l'avantage d'être placée quasiment au centre, mm-hmm. et aussi presque à la frontière de ce qu'on appelle ce Rüschtigraben, qui est la frontière linguistique entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, qui suit la rivière la Sarine, en fait. Et donc, voilà comment on a choisi. En Suisse, on a vraiment l'art du compromis, en fait, essayer de trouver un moyen que tout le monde soit d'accord, et c'est comme ça que ça se passe, finalement.
Alors, c'est bien tout ce que tu dis, mais on va revenir deux secondes dans la ville qui est toute proche. Non, mais c'est hyper passionnant. Il y aurait de quoi faire plein d'autres chroniques, bien plein sûr. D'autres rubriques là-dessus. Moi, je voulais juste revenir sur un petit clin d'œil. Parce que bon, c'est vrai mm-hmm. que comme tu l'as dit, tu fais la Haute-Savoie, tu fais beaucoup Genève. Moi, j'aime bien dire qu'il y a pas très longtemps encore, Villeurbanne n'existait pas parce que c'était des champs. Mm-hmm. parce qu'il y avait la ville de Lyon et puis autour, c'était des champs. Puis on a évolué. Genève, ça a évolué comment? Parce que bon, c'est vraiment... tu disais Berne, c'est la capitale. Quelle est la capitale économique de la Suisse, en fait? C'est Genève ou c'est Lausanne?
Ni l'un ni l'autre, c'est Zurich.
Merci, c'est gentil. Ah, bah, évidemment, ça.
Clairement,
j'aurais dit Zurich, elle m'aurait répondu non, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est pas grave.
Non, c'est vraiment la plus grande ville. C'est le siège des assurances, des banques de dépôt. Également, après, chaque ville a un peu sa spécialité. Hein. On a Bâle avec la pharma, par exemple. Et Genève, bah, c'est plusieurs choses. Ce sont les institutions. Pardon, institution organisée. Ouh là, j'arrive plus à parler aujourd'hui.
Alors, attends, vas-y. 3, 2, 1. Vas-y, répète. Les institutions internationales.
Non, justement, je mélange les organisations internationales. Voilà, on y arrive.
Alors, c'était quoi le choix? C'était de répartir toutes les structures dans toute la Suisse entière? Parce que c'est vrai que pour nous, les Français, Genève, c'est plus naturellement, comment dire, notre capitale suisse, j'allais dire.
Oui, alors c'est quand même la deuxième ville, donc c'est importante, et puis c'est une capitale mondiale dans le sens où elle est reconnue dans le monde entier comme cité de la paix, en fait. Mmh. Donc ça, c'est important. Mais on ne peut pas vraiment dire que ça a été un choix comme ça, ça s'est fait par rapport à l'histoire des villes, en fait, hein, tout simplement. Et Genève, c'est vrai qu'elle a un destin un petit peu particulier, qui est lié, bah, d'une part, à sa position géographique, et ça remonte déjà à l'Antiquité, en fait. Hein. La réforme, ensuite, a joué énormément, un rôle très important, vraiment, dans ce développement, mm-hmm. qui a abouti, petit à petit, au développement de certaines industries, et qui a amené aussi la création, par exemple, de la Croix-Rouge, qui a entraîné ensuite les organisations, etc. Donc, c'est un petit peu un effet d'entraînement qui va se faire comme ça, qui va aboutir à la création de Genève comme on la connaît aujourd'hui.
Ça veut dire quoi, Genève?
L'origine du mot?
Bah oui.
Alors, ça vient justement de l'Antiquité. Hein, ce sont les Allobroges, donc la première population celte qui va s'installer au bord du lac Léman, qui va nommer la ville de Genève simplement de manière descriptive, puisque Genève, ça veut tout simplement dire l'embouchure du lac. Et effectivement, c'est la ville à l'embouchure du lac, Léman.
Ah oui, d'accord. Là, oui, c'était simple à trouver, en fait, comme quoi. Hein.
Voilà.
Et alors, Comment s'est construit Genève petit à petit? Parce que bon, là, on a l'impression que c'est une très grande ville. Mais avant, ça a toujours été comme ça? Ça a été toujours une très grande ville? Ou ça a été, je ne veux pas dire le petit hameau, le petit village, mais...
Pendant longtemps, oui. Et déjà, c'est même aujourd'hui, en fait. Hein, on a l'impression, effectivement, c'est une grande ville parce qu'elle a cette renommée internationale. Mais en réalité, elle n'est pas si grande que ça du tout en taille. La ville en elle-même compte 205 000 habitants. Et puis le canton, on arrive à 1 million. Donc, c'est pas si grand que ça. Elle a toute une grande métropole, mais finalement à une échelle tout à fait humaine, ce qui la rend très agréable aussi d'ailleurs.
Attends, moi, pour bien comprendre, moi, quand je passe la frontière à Gaillard, je rentre dans Genève, et j'ai l'impression qu'il faut que je fasse 5-10 km pour rejoindre quasiment le centre-ville. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est immense.
Parce que c'est pas si grand que ça, hein, quand même. Mais d'ailleurs, t'es dans le canton, quand tu passes la frontière à Gaillard, t'es dans le canton, mais t'es pas encore dans la ville de Genève.
D'accord, ok. Donc cette notion. Est-ce que vous avez des compositions comme nous, c'est-à-dire avec une communauté de communes ou avec ce sont des cantons pour vous?
Alors il y a trois niveaux d'organisation en Suisse. Le niveau le plus haut, c'est le niveau fédéral. Ouais. Donc voilà, on a le Conseil fédéral qui est le gouvernement suisse. Mmh. Ensuite, on a une division en 26 cantons. Enfin, canton et demi-canton, d'ailleurs. Donc, ça, c'est le niveau donc, cantonal. Et chaque canton est finalement un mini-État. Et il est relativement indépendant pour pas mal de choses. C'est un petit peu... c'est un État fédéral. Donc, comme on va pouvoir trouver avec les Länder en Allemagne ou les États aux États-Unis, par exemple. Ce qui veut dire que chaque canton a son propre gouvernement et son propre parlement. Et il y a beaucoup de lois qui sont uniquement cantonales. Et même là, par exemple, avec cette histoire de coronavirus, là, la vaccination, par exemple, c'est une compétence cantonale, ce qui veut dire que, suivant les cantons, on ne fait pas tout à fait de la même manière. Pour le moment, à Genève, on est encore à 45 ans, par exemple, mais le canton de Vaud a décidé de baisser l'âge à 18 ans, le Valais, Jura et Neuchâtel, je crois, ils sont passés à 16 ans même. C'est le genre de différence qu'on a. Pendant longtemps, les programmes scolaires étaient différents. Alors là, maintenant, on commence à harmoniser. Les jours fériés sont différents aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui diffèrent d'un canton à l'autre.
Non, mais c'est bien parce que c'est comme aux États-Unis, en fait. Chacun fait ce qu'il veut.
C'est un peu ça. Voilà. Alors après, il y a quand même quelques éléments qui sont au niveau fédéral. Hein, et par exemple, l'année dernière, au début de la crise, vraiment au plus fort, le Conseil fédéral a pris la main. Parce que c'était une situation d'urgence, et là, ils ont recentralisé, mais vraiment très ponctuellement, et en juin, ils l'avaient déjà rompu, en fait. Donc voilà, en fonction de ce que la situation exige, effectivement, ça peut arriver que le Conseil fédéral reprenne la main. Et puis, le dernier niveau, c'est le niveau le plus local, c'est celui de la commune. Donc là, on a des communes comme ça qui vont avoir leur conseil municipal, etc. Enfin, ça, c'est assez ressemblant à la France, au final.
Pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Genève, c'est quoi ? Mm-hmm. Ça ressemble un peu à nos bâtiments haussmanniens de Paris. Ça ressemble à nos grandes avenues qu'on trouve dans le sud de la France. Ce sont des immeubles très hauts, ce sont des petites maisons, comme dans certains coins de l'Angleterre. Comment est-ce qu'on peut...
Alors, il y a plusieurs Genève, déjà. Donc, déjà, la première chose, je pense...
Excuse-moi, pour moi, il n'y en a qu'une seule, mais enfin, bon, c'est pas grave. Oui, il y a plusieurs Genèves.
Non, il y a plusieurs quartiers.
Donc,
en fait,
Genève 1, Genève 2, Genève 3. Ah, il y a plusieurs quartiers. Oui, tu me diras, oui.
Voilà, qui vont avoir des visages vraiment très différents. La première chose, déjà, quand on n'a jamais vu Genève, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a le lac qui est effectivement très présent. Alors, on n'a qu'une petite partie du Léman, parce que le Léman, c'est 582 km². Donc, Genève a vraiment que l'extrémité occidentale et puis la partie la plus fine, en plus. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la rade chez nous. Donc, le lac, il centralise tout. Hein. Il est vraiment au centre. Et puis, il est terminé par le Rhône, qui va diviser la ville en deux parties, vraiment. Donc, on parle de rive gauche et rive droite, comme dans beaucoup d'autres villes. La vieille ville de Genève, elle va se développer, enfin, l'origine, vraiment, à l'époque des Allobroges, ça part d'une île qui se trouve sur le Rhône, qui va permettre aux Allobroges de construire un pont, en fait, enfin, deux petits ponts, qui vont permettre de traverser le Rhône. Et à l'époque, c'était la seule traversée possible du Rhône. Mmh. C'est ce qui va rendre cette position de Genève très intéressante, au final, et qui va permettre le développement d'une ville autour de cette île. Donc la ville principale, elle va se développer sur une colline. En fait, il y a deux collines hein, de chaque côté de cette île, une plus haute que l'autre. La plus haute, c'est Saint-Pierre, qui est donc sur la rive gauche. Et c'est là qu'on va avoir le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville. Donc on va avoir la ville romaine et puis ensuite la ville médiévale qui va se développer là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien en face, mais c'est plus petit, la colline est plus basse. Et elle va, l'autre côté va vraiment voir son développement. Enfin, on a déjà une église et tout ça très tôt. Mais là où ça va vraiment prendre de l'ampleur, ça va être à partir du XVIe siècle, quand on va avoir le développement de l'horlogerie lié à la réforme, et ça va être le quartier ouvrier, artisan et horloger du coup de Genève qui va se mettre là. Mais c'est vraiment, c'est, on va dire, la taille d'un village. Et puis de l'autre côté, sur la colline Saint-Pierre, la ville qu'on va continuer à se développer, donc aujourd'hui, ça c'est quand même encore des rues étroites, sinueuses, hein. On a un aspect encore assez médiéval dans le parcellaire. Mais bien sûr, les bâtiments, il n'y en a plus beaucoup des médiévaux. On a beaucoup de bâtiments, on a des très beaux hôtels particuliers, tout à fait dans le style parisien, des hôtels entre cours et jardins qui vont se développer autour du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Ça, c'est vraiment le moment où Genève regarde beaucoup vers la France et vers Paris, donc on copie beaucoup. On a aussi notre opéra qu'on appelle le Grand Théâtre, qui est largement influencé par l'Opéra Garnier, par exemple. Donc voilà, on a quelques bâtiments comme ça. Après, ce qui va donner son caractère vraiment à la ville, c'est sa couleur déjà, parce que la pierre de construction ici, c'est la molasse, qui est en fait du sable compressé, hein, c'est du grès molassique, qui a une couleur gris-vert. Donc ça, c'est vraiment la couleur de Genève. Et puis ensuite, on a quand même des bâtiments plutôt hauts, je trouve, même en vieille ville, parce qu'on peut aller jusqu'à 7 étages pour la vieille ville. Et ça, c'est lié à l'histoire, en fait, parce que quand la réforme va être adoptée au XVIe siècle, on va avoir Calvin, entre autres, qui va être très important. Encore aujourd'hui, on parle de Genève comme étant la cité de Calvin, donc il a vraiment laissé son empreinte. Et il avait de grandes ambitions, en fait, pour Genève, grandes ambitions en général, et Genève va lui permettre de les réaliser plus exactement, c'est-à-dire qu'il voulait créer une capitale du protestantisme qui soit l'équivalente de Rome pour les catholiques. Et puis, comme on était en pleine période de guerre de religion et que les protestants ont été persécutés, voire massacrés en France et ailleurs, eh bien, il voulait qu'ils puissent fuir à Genève et se trouver ici en sécurité. Donc, c'est ce qui lui a aussi valu le surnom de cité de réfugiés. Donc, Genève, déjà à ce moment-là, va se construire avec les réfugiés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant dans l'histoire de la ville. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient de sortir sur le sujet qui est très intéressant. On voit que finalement, la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui et les grandes personnalités qui ont marqué la ville, il y en a énormément qui étaient soit eux-mêmes réfugiés, soit qui sont des descendants de réfugiés. Donc c'est vraiment une ville qui s'est construite avec les forces de partout finalement. Mais pour revenir aux réfugiés du XVIe siècle, et du XVIIe d'ailleurs, parce que ça s'est pas passé en un siècle, on va devoir les accueillir, tous ces gens, parce qu'on va vraiment beaucoup augmenter la population. Ce que je disais au début, Genève, c'était pas une très grosse ville, en fait. Avant la réforme, on avait tout juste 1000 habitants au début du XVIe siècle. Et puis, très vite, en fait, ça va augmenter en fonction des afflux de réfugiés, comme ça. Et on va passer facilement, au début du XVIe siècle, déjà à 25 000 habitants. Et comme pour se protéger des invasions catholiques, et en particulier du duc de Savoie, on a renforcé les fortifications à ce moment-là. On avait un système de fortifications avec des bastions, ce qu'on appelle aujourd'hui des fortifications à la Vauban. Mais en fait, ça existait déjà bien avant Vauban. Et à Genève, ça a été construit au XVIe siècle. 800 mètres d'épaisseur comme ça tout autour de la ville, il est hors de question de construire en fait en dehors de ces murs. Ça aurait été vraiment trop dangereux. Et donc il n'y a pas d'autre solution. Il faut accueillir tous ces gens à l'intérieur de la ville. Et la seule solution, ça va être de rehausser les maisons comme ça au fur et à mesure des besoins et de l'afflux des réfugiés. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des maisons anciennes quand même et qui sont déjà très hautes pour l'époque. Et puis, tu continues?
Bah écoute, tu pourrais continuer parce que de toute façon, par contre, oui, je crois qu'on on va être obligé de se retrouver une troisième fois. On n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix parce que bon, là il n'est pas question quand il nous reste logiquement quoi, il nous reste même pas 2 minutes. Il n'est pas question qu'en 2 minutes tu me fasses l'expo là au-dessus et que tu me fasses les.
Ah non,
les...
ça je peux pas tout faire. Non, je peux juste te parler des autres quartiers qu'elle a vieilli, c'est tout.
Ah ben vas-y, alors on continue sur les autres quartiers et on va se retrouver une troisième fois. Bah, ça c'est un vrai bonheur pour parler de l'expo là au-dessus et puis pour parler aussi des institutions internationales parce que ça j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Alors ah, vas-y, oui, les autres quartiers, aussi. On finit sur les autres quartiers.
Voilà, donc juste pour finir, ensuite, au 19e siècle, ça va beaucoup changer. C'est le moment où on va détruire justement les fortifications. Et on va avoir un personnage important qui est le général Guillaume-Henri Dufour, qui était l'urbaniste de la ville à l'époque, qui va réaménager certains quartiers, en particulier les bords du Rhône. Et donc, on va commencer à avoir vraiment des programmes urbanistiques, vraiment, un peu à la manière de la rue de Rivoli à Paris. On va copier un petit peu encore ces idées-là, et avec des bâtiments tous uniformes, très classiques. Et puis ensuite, eh bien, le XXe siècle va apporter les organisations internationales, justement. Et là, bah, c'est une autre phase de construction. Et aujourd'hui, bah, sur la rive droite, c'est là où se trouvent justement les organisations internationales. Et là, on est vraiment dans de l'architecture très, très moderne. Hein. On a en verre avec des formes très variées. Donc voilà, c'est un autre visage de Genève.
Dis une question toute bête. Si je veux venir passer, je ne sais pas si je dois appeler ça des vacances, s'il faut que je m'installe pour 6 mois, il faudrait combien de temps réellement pour que je puisse visiter tout ce qu'il y a à voir à Genève ?
Ah, ben ça c'est une bonne question. Alors, c'est très souvent qu'on a des gens qui sont là vraiment de passage en fait, qui transitent à la gare ou à l'aéroport, qui passent 4-5 heures comme ça. Et puis souvent, ils se rendent compte que ah 4, ben mince, en fait, 4-5
heures, excuse-moi, 4-5 heures, t'as le temps d'aller au McDo et de revenir, hein, c'est ça, non ?
Voilà. Mais souvent, en fait, voilà, les gens ne pensent pas forcément en termes de destination à Genève et quand ils se rendent compte de tout ce qu'il y a à faire, ils disent faut que je revienne pour au moins une semaine. Donc, non, je dirais déjà au minimum vraiment pour un premier aperçu. C'est un grand week-end, ce serait pas mal. C'est d'ailleurs le critère qui a fait que Genève a été choisie plusieurs fois comme destination européenne de week-end, justement, parce que l'avantage, c'est que ben, on a à la fois la culture, la nature qui est vraiment à portée de main, toutes les activités outdoor possibles, que ça soit en montagne ou aquatique avec le lac. Donc il y a vraiment de quoi faire. Mais voilà, après, vraiment, si tu passes une semaine, tu vas pas t'ennuyer non plus. Quoi faire.
Oui, alors en plus, si c'est toi qui me fais la balade, alors là, ça va être encore plus intéressant. Bon, je rappelle quand même, puisqu'on est presque à la fin de cette spéciale, je rappelle qu'à l'origine, j'avais noté qu'on parlait quand même des grands monuments des institutions internationales, l'expo de là-haut-dessus. Et tout compte fait, on a parlé de choses passionnantes. Non, non, mais bien au contraire, parce que bon, moi j'ai une toute dernière question pour clôturer. Comment ça se fait que la Suisse soit ce petit pays qui soit enchâssé au milieu de l'Europe? Parce que là, franchement, il n'y a aucun accès à la mer, et puis comment ça se fait que ce petit poussin ou ce petit poussin ne soit pas fait manger par les ogres tout autour?
Ah, ça c'est une vaste question, et très franchement, je ne vais pas te répondre en 2 minutes.
Hein. Parfait, donc à ce moment-là, ça sera la question qu'on abordera pour commencer lors de notre prochain rendez-vous, qui va se faire très très bientôt, et puis on parlera aussi de toutes les belles choses. Bon, si j'ai envie d'avoir plus d'infos sur toi, comment je fais pour te retrouver?
Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, peut-être la plus simple, c'est d'aller voir sur Internet. Alors, il y a plusieurs sites. Le premier, c'est guide au pluriel-genève.ch. C'est un site que j'ai fait l'année dernière avec d'autres collègues. Et donc, je suis dessus et je présente une bonne partie des visites que je propose. Mm-hmm. Il y a toutes mes coordonnées également, donc voilà, on peut me joindre. Et puis, sinon, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Genève Escapade, donc dont on a parlé au début. Mm-hmm. Et ben voilà, sur leur site aussi, donc genève-escapade.ch, là, il y a d'autres thématiques, peut-être parfois un peu plus spécifiques pour les locaux, parce qu'on travaille beaucoup avec les gens d'ici, justement. Mm-hmm. Et effectivement, ben voilà, on peut me joindre aussi par ce biais-là.
Moi, j'ai une toute dernière question. Alors, c'est vraiment une question insolite, une question assassine, une question originale. Enfin, tu l'as choisi. T'es prête?
Je sais pas, je sais pas.
Oui. Est-ce qu'ils sont tous comme toi? Non, je rigole. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais attends. Non, je rigole, évidemment.
Mais on a tous nos particularités, et nos points forts et nos points faibles, et on a tous quelque chose à apporter en fait. Chacun fait à sa manière.
En tout cas, ce qui est agréable avec toi, c'est que tu fais toujours rayonner le soleil, et ça s'entend aussi bien dans ta voix que dans toutes les inspirations. Bon, ben rendez-vous très très vite alors, hein, sur les institutions et les outils. Ciao.